Déjà, une question qui a été posée sur les music chans qui sont sur les petites fiches de perso dans le créateur de personnages. Ouais. On va les mettre en téléchargement sur le site. Donc, sûrement dans l'onglet téléchargement avec les PDF. Les musiques.
Ouais, complètement.
Donc, ça sera fait, dans la semaine.
Demain.
Non, pas demain. Je t'engage pas comme ça.
Généralement, ce que j'ai toujours, c'est dans 10 jours. Ça marche assez bien pour tout, en fait. Tu dis dans 10 jours, ça, c'est un chiffre qui marche pas mal.
C'est partout sur 10 jours. Donc, Walou, je crois que c'est Sindoc qui demandait pour le manuel du joueur aussi, s'il avait vraiment un intérêt par rapport au manuel d'itinérance. Non, c'est pas toi. Bon, je sais plus qui a dit ça. En gros, c'est à peu près le même contenu que le manuel d'itinérance, mais plus compact, remaquetté.
Bah, là, il y a des trucs qu'il n'y a pas.
Et il y a des trucs qu'il n'y a pas, donc il n'y a pas tous les scénars.
C'est un Reader Digest, c'est que la partie vraiment joueur. Ce qui fait que l'idée, c'est que ça fait un truc moins cher, mais que du coup, les joueurs peuvent avoir, puisqu'il y a toutes les infos du MJ, ils ne sont pas dedans quelque part. C'était ça l'idée, en fait.
Ouais, c'est ça. Alors, on a rajouté tout ce qui est métier de prestige, ouais. Destinée épique, qui sont dans les suppléments, parce que c'est un truc vraiment orienté joueur.
Ouais. Ouais.
Sinon, il y a quand même une grosse partie du manuel d'itinérance, mais quand même un peu épuré de toute la logique, ce modo. Donc, c'est un petit format. Après, si, alors, je sais plus quelle est la personne qui avait dit ça, mais en gros, si vous reprenez le PDF du manuel d'itinérance, que vous virez la partie scénar pour les joueurs, ça fait le taf. Sauf que là, c'est une version imprimée.
C'est que le livre en lui-même, le manuel des joueurs, a son utilité. Par contre, le PDF manuel des joueurs, pour ceux qui ont le PDF manuel d'itinérance, là, pour le coup, il sert pas trop. Parce que, pour le coup, effectivement, il suffit de virer les pages du manuel d'itinérance. Et au niveau du PDF, on a la même chose. Hein. Ça, c'est effectivement.
Et d'ailleurs, il y a eu une question sur le forum dans le Pledge Manager. En gros, quand on achète un pack, on a accès à tous les PDF correspondants à ce qu'on a acheté. Et pour le manuel du joueur, j'ai mis le manuel d'itinérance en PDF à la place. Après, se pose la question de ce qu'on va vraiment faire un PDF du manuel du joueur, est-ce qu'il a une utilité? On va voir.
Ouais.
En gros, ceux qui achètent le manuel du joueur auront le manuel d'itinérance en PDF. Donc, à voir.
Peut-être
qu'on le fera quand même. Hein. Mais voilà, en tout cas, le manuel du joueur, c'est une espèce d'outil à mettre au milieu de la table, un outil pratique pour que les joueurs aient tout sous la main. Et puis, même si eux veulent approfondir un peu l'univers, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments, plus que dans le kit du joueur.
Oui, c'est ça, c'est que ça fait vraiment. Il y a tout le côté évolution du joueur. Je parlais hier soir, c'est la différence entre le joueur et son personnage. Donc ton personnage il vit des aventures et le joueur lui il va pouvoir aussi progresser comme s'il augmentait de niveau en maîtrisant l'univers. Parce qu'après quand t'as des joueurs autour d'une table qui connaissent tous parfaitement l'univers, les tenants aboutissants, etc. Ça permet d'avoir des aventures hyper subtiles. Enfin, tu vois, d'avoir des trucs où le moindre blason, la moindre couleur, le moindre truc prend une signification, et donc du coup les mecs vont là, ah ouais, alors du coup clac-clac, enfin ça c'est ça qui est rigolo.
Ouais, carrément. Et donc Sindoc, c'était pas un bug, pour en parler. J'ai mis le manuel d'itinérance à la place du manuel du joueur de PDF, parce que c'est un peu la même chose derrière.
Ah voilà, c'est ça. Ah oui, j'avais vu passer ce truc-là qui disait effectivement, est-ce que c'est un bug?
On peut faire rapidement un point d'ailleurs sur la campagne Le Feu sous la glace, qui est à peu près, je crois que c'est 70% des gens qui ont validé leur Pledge Manager.
Cool.
On est bientôt au bout. Au niveau des illustrations, on est vraiment genre à 90-95% des 3 bouquins qui sont illustrés.
Ouais.
On est dans les dernières phases de relecture aussi.
Je viens d'en transférer sur le Pidio d'ailleurs.
Ah oui, cool. On va récupérer tout ça.
Ouais.
Donc voilà, on est sur le finish. Alors
il doit rester 10 à tout casser, quoi. C'est un truc comme ça.
En gros, il doit rester 10 par bouquin.
Ah, parce que oui, d'accord. Oui, il y a l'amiran qui doit nous envoyer.
Ouais. Mais c'était un gros taf parce qu'il y a
300 images.
Ouais, 350 illustrations.
Tout, ouais, c'est chaud.
Comptant les plans, les logos. Et dont 80% d'illustrations originales, quoi.
Ouais.
Donc c'était du gros taf. Mais après, les problèmes de distribution, etc. en ce moment, faut qu'on va sûrement décaler l'envoi en septembre plutôt qu'en juin, pour éviter les vacances d'été où les gens bougent pas mal, donc les bouquins pourraient se perdre.
Et puis les embouteillages aussi de distribution, parce que faut pas oublier que alors en Chine là, va y avoir des gros embouteillages de containers, de bateaux et trucs comme ça, et où de toute façon là il y a toutes les commandes qui étaient prévues et qui n'ont pas pu être livrées, va y avoir un échelonnage qui va se faire et donc du coup forcément un décalage de l'ensemble de la prod. Hein, donc ouais. Ça fait
donc ce sera plutôt vers septembre la livraison.
Mais les PDF avant, pour le coup.
Oui, ouais. Et les PDF, dès qu'on a les dernières illustrations, là, on va les balancer en ligne. Alors, les trois bouquins, les aides de jeu, enfin tout sera mis à disposition. Mais on est content en tout cas du résultat. Des bons bouquins.
Ah ouais, puis des beaux posters, hein. Allez, on a transpiré là-dessus, hein. On va peut-être commencer à pouvoir communiquer d'ailleurs sur les posters, certaines images, tout ça, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être pas mal hein, à balancer hein, comme visuel.
Ouais,
il y a
peut-être moyen d'en balancer un déjà sur le Discord là ce soir.
Ah ben, il y a mon chouchou, hein, on sait le truc de Waze là, hein, les Darken tatoués, là, pour moi ça c'est le.
Ah bon, on peut balancer ça.
Parce que celui-là il est quand même.
Ah ouais, c'est déchiré.
Il est ouf quoi, il est ouf. Ouais. Alors, on répond aux questions qu'on voit au fur et à mesure, là, ou comment ça se passe, d'ailleurs, Julien?
Je surveille, ouais, s'il y en a qui arrivent.
Ah oui, d'accord, ok.
Est-ce que la campagne est accessible pour des débutants? Les personnages sont expérimentés, mais globalement, la campagne ne demande pas une connaissance du monde globale, quoi. C'est vraiment centré sur une région du monde qui est vraiment travaillée dans la campagne que les joueurs vont découvrir au fur et à mesure. Donc, je pense que la campagne, alors, il vaut quand même peut-être mieux faire un ou deux scénarios avant pour découvrir aussi. Système, etc. Mais la campagne, je pense qu'elle est accessible à des débutants parce qu'elle ne demande pas une connaissance de Shan extraordinaire, quoi. Elle permet justement de découvrir pas mal d'aspects de Shan au fur et à mesure. Est-ce qu'on balancerait pas aussi le poster de Nanga?
Si, oui, tout à fait. Tu l'as, d'ailleurs? T'as le dernier? Vas-y, balance, alors.
Il y avait une question sur le fonctionnement des portes de Trinith. Bah pour situer, en gros, les portes de Trinith, c'est un bloc de Trinith qui est séparé en deux parties exactement égales, enchanté par un algorithme de Maginowai, qui polarise en fait les deux côtés de la pierre. Il y en a un côté devient blanc, donc c'est le côté âme, et un côté devient noir, tout côté enfiable.
En fait, une face sur laquelle en fait, on met un trin d'âme, sur une face de Trinith, et automatiquement, une anti-âme va venir sur l'autre face. Et on se rend compte que le bloc, du coup, on peut le traverser. Du coup, en passant par l'anti-âme est en sortant par l'âme. Et quand on coupe le bloc en deux, même si on déplace les blocs, eh ben le lien se fait toujours, en fait. Un peu comme le côté physique quantique ou ce genre de truc, quoi.
Et ça te fait l'enchantement avant de séparer les blocs.
Exactement, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tout un travail très précis de découpage, parce qu'il faut que les deux parties soient à peu près enfin, soient toujours de la même masse et tout ça, donc c'est un travail de haute précision, mais quand il est bien fait, bah, ça marche très bien. Quoi.
Ouais, les portes restent fragiles, mais voilà, ça permet de téléporter.
Ouais. Ah oui, il y avait tout le délire de technologie utilisée avec les portes de transfert, où tu as des portes dans des portes qui permettent du coup de transporter des grosses portes avec des tubes, des choses comme ça qui étaient rigolotes, quoi.
C'est Shombata là, qui est présent ce soir, qui avait un système qui a été publié dans L'arbre qui cache la forêt.
Ouais.
Où tu passais des portes dans des portes justement pour pouvoir sortir une porte en trimballant juste un petit disque de 30 cm grosso modo.
Donc c'était malin.
Un portable te permettait de sortir une grande porte.
C'est ça. Façon qu'un tête caverne, tu sais, quand tu sortais de ces... Mais c'est très malin parce qu'effectivement, ça marche très bien, quoi. Il y avait ça, puis il y avait le moteur à Trinity aussi qui avait été développé, il me semble bien, avec le côté un mouvement infini.
Oui,
il y avait tout un délire qui était très rigolo là-dessus.
Et tout ça a été décrit dans le supplément, donc c'est le livre numéro 4, c'est l'arbre qui cache la forêt.
Ouais.
Supplément blanc.
Et oui, bien sûr, tous les visages ils vont être ajoutés à la galerie des avatars sur le site. Hein,
ouais.
Il y en a un paquet là d'ailleurs.
Il y en a genre 150. Points.
C'est ça, quoi. Ça va être. Et on continue de le recevoir d'autres en plus. Donc,
Ouais, c'est tout ça, quand ça sera publié, tout va être dans le site. Est-ce qu'il existe un tourment de nécrose qui permet d'inverser la polarité des portes?
On l'avait pas mis pour un PNJ? On avait développé les pouvoirs de PNJ, ça te dit rien?
Ouais, c'est ça, ça doit pas être dans les pouvoirs de base, mais ça me dit quelque chose.
Moi aussi.
Et de toute façon, après, on peut inventer plein de trucs autour de ça. Le,
bien sûr.
Fonctionnement normal, c'est ce qu'on a décrit, mais après, on peut ponctuellement s'inventer des petits systèmes qui permettent dans l'autre sens. Je crois qu'on avait fait un petit pouvoir, une symbiose de Shani aussi qui permet de passer dans l'autre sens.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Pour rejoindre un membre de son Shani.
Oui.
Il y en a un membre du Shani qui reste de l'autre côté, ça permet de faire une liaison. Est-il possible d'avoir des portes de type Stargate aller-retour avec plusieurs destinations?
C'est comme d'hab dans Shan. C'est pas parce que c'est pas écrit que c'est pas possible. C'est qu'en local, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc on pourrait très bien imaginer une guilde de magiciens qui a réussi à trouver un procédé spécifique, qui a fractionné la Trinité, au lieu de la fractionner en deux, et ben ils ont fractionné la Trinité en quatre. Et que du coup, ils aient, par un processus spécifique, déplacé différentes portes à différents endroits et qu'on retrouve un système comme ça. Donc, pourquoi pas, hein,
Ça y est, un fonctionnement global normal, et puis après, créer du scénario en modifiant un peu tout ça.
Ce qui caractérise tout l'univers de Shan, c'est que le global est fixe, mais le local est complètement variable. C'est ça l'idée, en fait.
Pour la petite anecdote, moi, quand j'ai intégré le projet de réédition, la grande campagne de Saranei pétait complètement le monde. En gros, la planète devenait une planète vivante. Il fallait choisir un esprit à la planète. Justement, Igor avait dit, mais non, ça, c'est pas possible.
Ah oui, c'est pas possible. C'est pas pour une question d'ego des mal placés.
Ouais, oui.
Mais c'est simplement qu'en fait, il faut toujours avoir en tête que quand on a, et en plus, pour Shan, et ça s'est vérifié, on a tellement de scénarios, tellement de campagnes qui existent, que si les scénars et les campagnes altèrent la globalité, on se retrouvera après avec un univers qui potentiellement va être différent pour ceux qui ont fait la campagne et pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et ça crée des arborescences du coup de réalités parallèles qui n'ont pas de sens. Alors qu'en restant bien dans une globalité qui ne bouge pas, mais une localité qui, elle, on fait tout ce qu'on veut, ça permet de jouer toutes les campagnes, tous les scénars, dans tous les sens, n'importe qui, n'importe comment, et le monde reste le même pour tout le monde. C'est ça, c'était ça l'idée en fait qui a guidé en fait tout le développement.
Ouais.
Et je pense que pour le coup, ça nous a un peu donné raison quand on voit l'aspiration que la communauté a pu avoir pour imaginer 150 scénarios tous jouables, intéressants, originaux, etc. Ces contraintes-là fonctionnent bien parce que du coup, chacun peut s'approprier les choses et puis derrière se développer comme il a envie, quoi.
Ce que je veux dire, c'est que souvent les jeux qui permettent de modifier complètement le monde sont des jeux campagne, donc t'as une grande campagne.
Et ça, exactement.
Tu chamboules, puis après, ouais, tu changes de jeu.
Bah oui, mais et après, et ça, c'est un syndrome, hein. C'est le syndrome du Zetsuter. C'est que souvent, quand t'as soit des auteurs des auteurs qui ont un besoin de détruire. Et en fait, ils ont besoin de détruire pour s'approprier. Or, on peut faire autrement.
Oui. Ah, carrément. Et pour info, avec Igor, on est en train de jouer des scénars de Itinerance 2. Donc, on joue à des scénars créés par la communauté, ce qui est assez fou.
Et on se régale. On se régale. C'est juste du bonheur.
Et Cricrune, d'ailleurs, je crois que t'es dans le coin. A priori, on devrait jouer sa campagne en trois scénars de feu et de flamme.
Ah.
On devrait enchaîner là-dessus. Il y a certains jours qui ne sont pas prononcés encore.
Mais... Cool.
Il y aurait moyen que vous nous fassiez un jour un scénario en live.
On l'a déjà fait sur tout le track. Mais
Oui, mais genre un scénario avec 15 joueurs sur Discord, c'est un peu plus compliqué. Vous avez jamais lu les scénarios en question. Moi, je les ai lus, mais c'est moi qui les fais jouer.
Et puis, des fois, moi, je peux lire des trucs, mais comme j'oublie après, ça...
Voilà. C'est ça, Igor, il nous lit, puis il les oublie derrière.
C'est même plus loin. On peut faire un scénar que j'ai écrit, ça, à ce moment-là.
Ouais.
Mais vraiment.
C'est pratique pour faire jouer ce qu'on crée.
Ah, bah, c'est génial.
Ouais.
Et combien il y a de fois où je suis retombé sur des textes en me disant, tiens, c'est pas mal, ça, c'est qui avait fait ça? Et j'ai une mec qui me dit, c'est toi. Ah bon, d'accord. Ça arrivait souvent.
Hein. Mmh, d'accord. Vous avez alterné MJ ou c'est toujours Julien? Alors, avant le confinement, en gros, ils sont tous sur Paris, parce que là, on joue globalement entre collègues, plus quelques éléments extérieurs. Bah, vous faisiez tourner les MJ, pas mal.
Ouais.
Et moi, donc, ils sont tous à Paris, moi, je suis en télétravail en Bretagne. Donc, la plupart du temps, je joue pas avec eux, j'ai mes groupes de joueurs en Bretagne. Et vous faisiez tourner les MJ.
Ouais, ouais. Avec une technique qui marche très bien. C'est qu'en fait, on est des MJ tournants, mais on a toujours le même groupe de personnages. Et quand il y a un des personnages du MJ qui ne joue pas, Ben, la partie d'après, simplement, le personnage, on lui rajoute des XP correspondants et il peut joindre à l'aventure. Et donc comme ça, là, tous les personnages augmentent quand même de domaine. Il n'y a pas de frustration de se dire « Ah ben ouais, ben, si je suis meneur de jeu, du coup, mon perso ne va pas augmenter. » Enfin, ce genre de truc, ça marche pas mal, ça.
Oui, c'est ça, pour les remettre à niveau quand même. Ouais. Qu'il y ait des persos hyper
c'est ça. Power. Oui, pour que ça garde toujours la même unité.
Et ça commence à faire des persos assez costauds. Hein. Il y a plus de 100 PX quoi, par perso.
Ah bah oui.
Et après, ben moi, je vais quand même de temps en temps à Paris pour travailler. Donc, j'avais mené une partie. C'était le scénar de La mort venue du ciel.
Oh là là, c'était dingue.
De Yann Kirastinikos, l'auteur. Digayan, je crois, sur le forum. Mm.
Oui, c'est ça.
Je vous avais fait jouer ce scénar-là.
C'était vraiment dingue.
Pareil, en version un peu abrégée, parce que voilà, je viens pas tous les 4 matins non plus. Et on s'est remis pendant le confinement, du coup, à distance. Et c'est moi qui mène les parties. Et on a joué Chasseur d'Ambiose, qui est pareil de Itinérance tome 2. L'auteur, c'est son pseudo sur le forum, c'est NGS. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu sur le forum, mais voilà, il y a une période où il était assez actif, il avait posté un scénar.
Très sympa.
Ouais, c'est le petit scénar qu'on a fait en deux.
Très chouette.
Si vous voulez, je peux poster des dessins de mes joueurs qu'ils ont fait pendant le début de la campagne, le cycle d'ODA. Carrément, ouais. On est pas des dessins. Il y a un post sur le forum pour poster tous les dessins des gens. Oui, ça a causé pas mal des projets autour des autres continents. Donc il y a Krikrun qui bosse sur Tringae / Elecland. Son nom humain.
Ouais,
il nous a dit qu'il était toujours dessus. Donc il a développé tout le background du continent et a priori il est également. Et on a développé nous aussi le Relosoy, qui est le continent au sud de Léos.
On est dessus. Ouais.
Igor, t'as écrit pas mal de choses dessus. Et j'ai un pote du groupe du jeudi qui a participé aussi à un peu sous la glace, qui est en train d'écrire un gros scénario qui se passe dans Relosoy et qui est très particulier comme scénario. Je pense que vraiment il change des habitudes et c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Il est en cours d'écriture.
Déjà, ce qui est rigolo dans Relosoy, c'est qu'on pose des nouvelles races, mais de montrer comment on peut faire de nouvelles races en fait à partir des races existantes. Et je pense que c'est un truc qui permet d'ouvrir aussi un peu les chakras sur de la création après, sur d'autres endroits, sur d'autres trucs qui peuvent fonctionner. Quoi.
Ça, c'est des variantes des races existantes, mais qui ont migré à d'autres endroits, qui ont évolué différemment.
C'est ça, des spécificités autres. Quoi.
Donc voilà, ça fera peut-être l'objet d'un supplément spécial continent. Je sais pas, ça rentre pas trop dans les gammes itinérance et carnet de voyage, parce que c'est à la fois de l'aide de jeu, du scénar.
Ça peut peut-être être un... Enfin, oui, on devait réfléchir à ça. C'est peut-être une suite au supplément de base, en fait, qui aurait le même look que les suppléments de base, où tu aurais de la géographie, de l'aide de jeu, et puis du scénar derrière. Donc, ce serait pas déconnant.
Ouais, clairement. Krikrun, en fait, ce qui me prend du temps actuellement, c'est d'essayer de créer davantage de
règles. Eh oui, tout est là.
À présent, j'en avais que 4.
Ouais, très bien.
Le continent, au final, plus grand que les aussi. Bah oui, il est plus grand.
Bah, bien sûr. Mm-hmm. C'est le piège, hein, ça. C'est effectivement de se dire « Ah, oh ben c'est bon, je partage ça en 3 et c'est impeccable. » Oui, mais chaque région fait 2000 km sur 2000 km. Ah, merde. Donc, ça, c'est le piège, effectivement.
Ouais, c'est quand on a redéveloppé les aussi pour la réédition. C'est 21 régions. Bon, c'est parti.
Ouais.
Ça fait du taf. Hein.
C'est beaucoup de taf. C'est ça. Parce que découper en soi, ça va. Mais c'est les descriptions, après, qui sont longues.
Alors, j'essaie de m'inspirer du modèle de présentation des régions de Léo aussi, avec description, ville
principale. Ouais, c'est top.
S'il y a des peuples, ouais, s'il y a des personnages.
Ce serait top, parce que ça permettrait d'être accord, justement, donc ça serait l'idée, quoi.
On peut peut-être relancer sur le forum un appel à l'aide pour la rédaction.
Oui. Il sert à ça, de toute façon, effectivement, on a un côté plateforme participatif qui marche plutôt pas mal, hein, donc...
Ça, moi, j'essaierai de remettre à jour, d'ailleurs. J'avais fait un sujet de forum où je répertoriais tous les projets qui étaient en cours. Alors, certains
oui, c'est vrai.
Maintenant, plus ou moins abandonnés, ou les gens ont disparu.
Ouais, c'est ça.
Ça pourrait être l'occasion de remettre en avant les sujets qui sont encore plus ou moins actifs, quoi. Et ça peut être l'occasion de parler aussi de ce qu'on veut faire par la suite.
J'envoie un petit écran, là, ou pas spécialement?
Ah, bah, si tu veux.
Ça peut être rigolo.
Parce que là, c'est après l'apparition du feu sous la glace qui nous a quand même demandé beaucoup de boulot, là, qui n'est pas encore tout à fait fini. Si on arrive au bout, on est bien content de ce qu'on a fait. Ça fera quand même 11 bouquins dans la gamme. À côté, ça fait, grosso modo, ça fait 30 produits, hein, à peu près.
On est pas mal.
Ouais. Donc, on s'est dit qu'on allait un peu se calmer sur les bouquins. Mais ce qui n'empêchera pas de publier les créations de la communauté. Et avec Igor, on va se reconcentrer sur le site internet, et notamment toutes les gros, l'assistance aux jeux en ligne, grosso modo. Là, le fait de jouer à distance, ça nous a mis un peu les mains dans le cambouis, voir ce qui pourrait manquer, ce qui serait intéressant à développer sur le site. Moi, j'ai de toute façon plein de trucs en chantier sur le site aussi, au niveau de la création de personnages, de la gestion des personnages après pour les faire évoluer. Et de toute façon, on avait toujours notre projet de jeu par navigateur.
Ah, c'est du méga scoop, hein? Méga scoop.
Ouais, ouais. Tu veux ça, on aimerait bien faire un truc à la... Alors, pas tout à fait à la Roll20, mais voilà, il manque pas tellement de choses sur le site pour qu'on puisse jouer en ligne. Et voilà, Igor a balancé le petit exemple d'interface qui pourrait être sympa. Alors après, ça permettrait même de jouer tout seul.
Oui. Et c'est, en gros, l'idée, c'est qu'on joue à 3 contre 3 et on constitue en fait une équipe de 3 personnages. Et donc, soit c'est 3 joueurs qui ont chacun un personnage, soit un joueur qui joue 3 personnages. Et on crée des groupes comme c'était du deck building en fait. Donc justement, on peut s'affronter, on a des quêtes, on a tout un tas de trucs qui vont fonctionner par rapport à des lieux. On a une grande image en fond et avec des endroits où on se trouve. Et donc l'idée, c'est que le premier qui arrive à 10 PX remporte la partie. On a 10 tours pour pouvoir... et au bout de 10 tours, ça se finit, celui qui a le plus, bah, il gagne. Et donc, on a comme ça une interaction qui se fait entre... on peut aussi se friter entre soi. C'est que quand on neutralise un personnage adverse, on gagne des PX. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir gagner la partie. Donc, voilà, ça fait un côté un peu... jeu dont vous êtes le héros, jeu de rôle, parce que quand on est plusieurs, on a notre groupe, on agit contre 3 autres qui seraient un shiny concurrent, on va dire. Et voilà, donc ça peut faire une expérience de jeu qu'on imagine originale et intéressante, et surtout qui exploite complètement les personnages qu'on peut créer dans le générateur de personnages, le système de jeu, enfin voilà, c'est ça qui c'est ça l'idée. Parce qu'on s'était quand même emmerdé à coder tous les pouvoirs et tout, pour que ça puisse être exportable à un moment porté sur Internet.
Mmh. On avait déjà en tête le fait de faire un jeu par navigateur à la base.
C'est que tous les pouvoirs qui potentiellement ne pouvaient pas marcher sur Internet, il y en a plein qu'on a dégagés en fait. Et inversement, ce qui marchait pour l'internet mais qui marchait pas en vrai, on a viré aussi. L'idée c'était vraiment d'avoir une passerelle totale, quoi. Ouais. Et qui est toujours viable. C'est que comme on a toujours gardé ce truc-là tête, ça reste complètement toujours faisable, quoi.
Et si on a cette interface qui permet de faire des sortes d'arènes de combats d'épreuves, en tout cas, ouais. En groupe, et ben on a tous les outils également pour faire du jeu en ligne. Avec un MJ, des joueurs qui gèrent leur personnage, sur un fond d'une image qui représente le décor. En gros, on s'est dit qu'à une époque, on voulait aussi intégrer les webcams et compagnie dans le site, mais il y a tellement d'outils qui font ça, c'est tellement mieux.
C'est plus la peine.
Ce serait vraiment juste une interface d'aide au jeu en ligne, à la Roll20, mais vraiment spécialisé Shaan. Gérer nos persos, lancer des jeux de dés, le MJ peut gérer des images, il aurait accès à une base d'images.
Oui. C'est qu'on a, ça donne au MJ la possibilité d'accéder à toute la banque de données de toutes les gammes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont proposées, quoi, du coup. Après.
Voilà, c'est une base de tokens, de bestioles. Voilà. On voit où l'idée. C'est pas pour tout de suite, mais petit à petit, voilà, on va se repencher sur le site. C'est de ce qui commence à être un peu daté maintenant, le site. Qui voilà, codé en quoi, en 2009, 2010, pardon.
Ah la vache, c'est vrai déjà? Oh la vache! Ah, c'est fou.
Donc voilà, faire un peu moins de mise en page et d'édition de bouquins et un peu plus de Shaan sur
Internet. Online. Ouais, ouais. L'idée, en fait, c'est vraiment de faire un... C'est con à dire, mais faire un jeu auquel on a envie de jouer. C'est que, ça va, à la base, moi, je suis pas du tout jeu vidéo. Complètement passé à côté du truc. Et j'avais jamais joué en ligne au jeu de rôle. Et ça, c'est le confinement qui un peu nous a forcé la main. Et j'ai été très, très agréablement surpris, en fait. Et je me suis dit, ah merde, mais ça marche très, très bien. Ça marche très bien, en fait.
C'est vrai qu'il faut avoir quand même une certaine discipline de...
Oui.
de pas parler dès que tu commences à être à deux, trois en même temps à parler.
Tout à fait. Ouais, complètement.
Bien chaud. Ouais.
Et il y a ça, et avoir une connexion pas trop pourrie, parce que du coup, moi, il y a plein de fois où on pouvait croire que je coupais la parole, mais c'est juste parce que non, j'avais pas de retour son, en fait.
Ouais, c'est ça, moi, c'est pareil. J'ai pas un débit de malade chez moi.
Ouais, sur Roll20 aussi, c'était très bien, hein, franchement. Attention, et puis pour Roll20, faut voir tout ce qui a été développé par la communauté aussi, en plus. Hein.
Ouais, c'est cool.
Il y a plein de macros, plein de trucs, les fiches de perso. Non, c'est carrément impressionnant. Il y a tout un travail qui a été fait, là, qui est dingue. Hein. Mm. Bon, et puis en temps d'illustration, là, on commence vraiment à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour le coup, là, on peut illustrer absolument tout ce qu'on veut dans tous les sens. Quoi. Ça, c'est...
Ouais, que ce soit au niveau de décor, personnage, bestiole.
Ouais, bon. Ouais.
Ah, que le Discord va être amené à se développer. Bah là, on teste des trucs. Hein. On va voir si, je sais pas, on est quoi, une quinzaine. Donc, pourquoi pas, hein, précieux. Si ça vous tente, justement, est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vous intéresseraient sur des lives ponctuels, quoi. Si un magicien niveau 8 pour devoir augmenter la difficulté, sinon il t'écrase le scénar. Après, ça dépend comment est monté le magicien. Parce qu'on a connu des magiciens qui mettaient tout en magie, mais qui se retrouvaient à
5 ah bah oui.
Encore.
Ah oui, c'est facile à plier.
Ça reste fragile quand même.
Ah oui.
L'avantage de Shan, c'est que même si t'es fort sur un trim, t'as toujours une petite faiblesse quelque part sur laquelle tu peux jouer en tant que magicien.
Et le truc tout con, en fait, que moi j'ai éprouvé hier soir, c'est que t'as beau avoir 11 dans ton domaine, où t'es quand même une brutasse, si dans ton jet de dés, tu fais des petits jeux de merde, et t'as beau additionner et que tu dépasses pas 4 de score, bah t'as l'air d'un con quand même, hein.
Ça, tu dépenses 2 points de trine pour faire...
C'est ça. C'est pas du tout rentable, mais t'as pas le choix, parce que faut que t'optimises les choses, donc du coup tu t'épuises aussi vite. Et ça marche très très bien, parce que du coup on voit que le système il est aussi robuste pour du débutant, mais même du très confirmé, ça marche quand même très très bien. Ça aurait pu le mec qui se branle la nouille, mais c'est pas grave.
En général, il me balaye mes PNJ avec son onde trinique. Alors c'est vrai qu'onde trinique, si t'as des humains fragiles en âme,
Oui, mais ça faut pas, oui. Ouais. Non, mais c'est comme d'hab, de toute façon, l'adversité elle est toujours proportionnelle et relative au personnage. C'est que si tu commences à avoir effectivement des magiciens très malaises pour un type de protagoniste, bah, il suffit juste de s'arranger pour que de ne pas mettre ce type de protagoniste et puis en mettre un autre, et bah, ça change la donne. Hein. Et il suffit que certains humains, des soldats humains soient briefés et formés à avoir aussi une défense en âme parce que bah, ils ont bien compris qu'ils se faisaient péter la gueule comme ça. Tu peux avoir une squad d'humains qui sont bardés de gris-gris protecteurs d'âme à qui on a appris les arts et tout ça pour pouvoir justement développer leur âme. Et au contraire, ça c'est encore générateur de créativité. C'est ça qui est rigolo. C'est
que d'un tout. Un magicien collabo qui a un bouclier trinique autour de son groupe.
Bah, oui. Bah,
tout de suite, ça crée un enjeu stratégique.
Il
faut lui mettre de la difficulté au magicien.
Bien sûr. Et c'est pas très compliqué. Hein. En face, il suffit de balancer un chamaniste qui fait bouclier nécrotique. Ça fait déjà une protection en âme bien efficace. Quoi.
Un exemple, c'est le pouvoir corps astral est très très fort aussi.
Alors ça c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Ouais.
Enfin, moi, à toutes mes tables, il y a toujours eu un corps astral de toute façon. Et ça peut potentiellement casser les scénars aussi. Hein. Si tu vas voir en avance de phase, si tu arrives à espionner un endroit stratégique, etc.
Ouais.
Donc, faut révéler des infos.
Ouais.
Moi, ce que je fais contre ça, c'est que je prévois toujours un endroit dans le scénar où si quelqu'un se balade en simple âme, donc si c'est son trine d'âme qui se balade, un trine d'âme, ça reste vulnérable aussi.
Bah oui.
Ça peut être un tourment de nécrose qui va attaquer l'âme, ça peut être un magicien qui va percevoir l'âme avec un test de voile, magie plus voile par exemple, et qui peut griller le trine d'âme du personnage, donc ça fait que...
Ça prend très cher, hein. Ouais. Typiquement dans le scénar là qu'on avait fait la mort du ciel, typiquement on est exactement dans ce cas-là où et ça c'était déjà dans le scénar en fait, c'était de trucs un peu nécrotiques qui venaient qui étaient dans les alentours et tout ça, potentiellement tu peux prendre très très cher quoi, donc c'est pas très compliqué de mettre en face ce qu'il faut pour contrecarrer des trucs, des personnes qui se sentent un peu genre qui peuvent cramer, c'est très facile de calmer les gens.
Et puis essayer de les surprendre aussi.
Bah oui.
Ils sont dans leur petite routine, bon ben tranquillou, j'y vais dans mon corps astral, ça risque quelque chose quand même.
C'est ça.
Petite question, comment gérez-vous la création des persos avec des joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle? Alors, manque de temps en commun pour faire une session dédiée à la création de persos, je suis allé un peu comme un bourrin en envoyant le module de création de persos.
C'est très bien.
En les laissant se dépatouiller
ça
avec
marche. Ça marche très bien. Hein. On a plein de joueurs qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, qui sont créés un personnage comme ça, et qui du coup fait que ça fonctionne. Quoi. Et le manque de connaissance de l'univers, il n'est pas du tout préjudiciable, au contraire, ça n'a aucune importance.
J'imagine qu'avec moins de connaissances techniques, les choix des persos seront plus motivés par le feeling.
Ouais.
C'est exactement ça. Tu vas faire un perso au feeling et puis exactement. Après, tu vas découvrir le monde avec lui, en fait.
Exactement, par ses yeux. Et le système de création fait que quoi que tu choisisses, c'est ça toujours plus ou moins équilibré quand même. T'as pas vraiment de risque de faire un truc complètement pourri. Ça servira toujours. T'auras toujours un point fort quelque part. T'auras toujours un truc qui sera utile.
Mais ça, tu vas choisir une approche, en fait, parce que après, les domaines restent assez parlants. Tu vois, si tu fais un perso combat, un perso technique, un perso social, tu vois à quoi ça ressemble quand même. Et le peu de description qu'il y a des races dans le créateur de personnages donne déjà quand même
ça suffit à faire une idée.
Doctrine, l'approche du monde en tout cas quoi. Si
et ça suffit. Hein.
C'est plus peaceful ou plus feu. J'ai des joueurs qui se sont éclatés à faire plein de persos sur le
terrain. Ah c'est vous parce que on en est à 20 000 hein, avec ce personnage sur la base.
Olivier qui a écrit la campagne Le Feu sous la glace, il passe un temps fou sur le jeu.
C'est ça.
Générateur de personnages, j'adore ça.
Ah c'est un beau jeu, c'est un beau jouet.
Mais pareil, c'est un vieux jouet aussi. J'ai envie de l'améliorer celui-là. Mm. Il y a moyen de faire mieux maintenant. Trois persos par contre, c'est un supplice. Alors ça, c'était une limitation qu'on avait mise au début. Parce qu'on imaginait, il y a maintenant 10 ans.
Faire un abonnement sur le site.
Voilà, mettre en place un système d'abonnement qui donnerait accès à certains services qu'on aurait développés, etc. Mais comme, en gros, moi, je devais développer des trucs sur le site et la mise en page, c'est Igor qui devait s'en occuper. Puis au final, j'ai récupéré tout ça. Du coup, j'ai fait moins de développement.
Je sens la panne.
C'est vrai. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de développer des choses. Alors, on pourrait monter cette limite, hein, parce que c'est pas forcément la place que ça prend en base de données. Mais bon, le côté abonnement sur le site, ça permettrait quand même de financer justement tout ce qui est développement du jeu et compagnie, ouais. D'ouvrir des droits sur le jeu. Au début, on avait imaginé un système de quêtes générées aléatoirement qui serait en accès gratuit et des quêtes qui seraient travaillées, scénarisées avec notre petite mimine, qui elles seraient payantes ou accessibles via un abonnement. Donc à voir, ça, il faut qu'on y réfléchisse.
Oui, mais c'est marrant parce que c'est une histoire de connaissance de l'univers. J'ai l'impression que souvent, c'est un truc qui est une appréhension de pas mal de gens. Et en fait, on s'en fout complètement. Hein. C'est que généralement, tout est conçu, enfin, tout est intégré dans les scénars. Dès l'instant où tu t'écris ton perso et puis ce que le meneur de jeu te raconte par rapport au scénar, mais ça suffit largement. On s'en fout de connaître tous les tenants aboutissants de tous les trucs, de tous les machins. On s'en fout. Enfin, en tout cas, pour commencer, pour débuter, ça n'a aucune importance.
Hein. C'est vrai que c'est un truc qui revient assez souvent.
Ça revient souvent, hein, c'est marrant.
C'est pour la boîte d'initiation aussi, on avait eu cette critique-là, que donc, ça en disait pas assez sur l'univers de fans.
Pour ah oui.
Dire le truc, mais voilà, ça, l'univers, il transpire à travers les scénarios après. Quoi.
Ah ouais, c'est ça.
Ça dépend, les joueurs peuvent avoir tendance à dériver, il vaut mieux en connaître un peu à côté pour éviter d'être bloqué. Après, si ça crée des blocages en partie, ben c'est justement via des jets de savoir, des sociales, tu peux te débrouiller à débloquer des infos du MJ. Grosso modo, quoi, c'est le meneur qui va raconter un bout de monde parce que tu te retrouves confronté à une situation où il faut connaître ce bout de monde-là pour avancer.
Encore une fois, il faut toujours dissocier ce que sait le joueur de ce que sait son personnage. Il peut y avoir des moments où un joueur va en savoir plus sur le monde que ce personnage, et l'inverse, c'est qu'il y a un moment où il peut y avoir un personnage qui est censé faire des trucs et connaître des trucs que le joueur ne connaît pas, mais c'est pas grave. On part du principe que le personnage, lui, le sait, et puis ça va pas, et comme ça, on peut très bien avancer.
Perso, je fais des références cinématographiques pour essayer de représenter le monde de Chaz.
Ah, ça marche aussi, quand même. Ça marche aussi, ouais, bien sûr. Ah, ouais.
C'est marrant parce qu'il y a de plus en plus de films et notamment de films d'animation très colorés avec des bestioles un peu cheloues comme dans Shaan qui imagent vachement maintenant le monde de Shaan. Ce qu'il n'y avait pas.
Oui. Mais quand c'est le MJ qui ne sait pas, le scénar a priori te donne des pistes pour pouvoir jouer. C'est, effectivement, tu ne connaîtras pas tous les tenants aboutissants de tous les trucs, mais l'histoire elle-même, à ce moment-là, il faut se concentrer sur l'histoire elle-même. Et généralement, tout est expliqué dans le scénar. Tu as des choses locales. Et il suffit de connaître les choses locales pour que ça fonctionne.
Puis c'est le MJ le chef. Ah, moi, je suis pas cette optique-là.
Non, Ouais, pas non plus. Ah non, c'est que après ça dépend comment chacun envisage les trucs, mais moi je vois vraiment ça comme un brainstorming collectif, quoi.
Ouais, ouais, carrément.
On est sur un truc participatif, et puis le MJ met en place des trucs, et puis les joueurs après apportent aussi leur créativité, leurs idées, leurs suggestions, et la partie se fait par le mix des joueurs et du MJ. Alors, sinon, le MJ va être un arbitre par moment, mais c'est pas pour autant le chef, c'est un arbitre.
Parce que des fois, moi-même, en tant qu'MJ, j'ai pas de solution au scénario.
Ouais.
C'est juste en rebondissant sur les idées des joueurs quand ils discutent entre eux ou qu'ils émettent des hypothèses où tu dis ah ça c'est pas mal.
Tout à fait. Bien sûr. Ouais, c'est une boutade, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent dans la communauté, de dire effectivement le MJ a tout pouvoir, etc. C'est un truc qui revient souvent.
Une nouvelle extension de Magic, c'est une mine d'or pour avoir des bébêtes farfelues. À Magic, ouais, le nombre d'illustrations qu'il y a dedans.
Ouais. Et il y a Pokémon aussi, hein, c'est bien hein, Pokémon. Hein.
Pour les armes mâles.
Bah oui.
D'ailleurs, il y avait une question d'ailleurs sur les armes mâles, à cette occasion, sur la relation entre les armes mâles et les éociens. Enfin, pas en ce moment, je m'interroge sur la façon qu'ont les éociens de considérer les animaux, et plus particulièrement les armes mâles. En effet, j'avais l'impression qu'ils avaient globalement un grand respect, voire une relation harmonieuse. Et en lisant à droite à gauche, je me rends compte que ces créatures sont parfois maltraitées, des armes mâles mangées pour leur chair, etc. Avez-vous des éclaircissements à ce sujet? Souvent dans les scénars, on bouffe des... c'est hamburgers à base de bestioles.
Oui, mais c'est toujours pareil. C'est qu'en global, les océans sont plutôt respectueux de des animaux, mais comme des végétaux, comme de tout ce qui constitue le cercle des réalités. Et en local, bah, y a tout un tas de dérives, il y a tout un tas de trucs où effectivement, bah, là, tout le monde se permet n'importe quoi. Et puis voilà, quoi.
Et souvent, quand tu fais un scénar, c'est pour aller voir les dérives.
C'est pas intéressant, sinon. Si dans le scénar tout est parfait, tout est harmonieux, tout est équilibré, ben t'as rien à faire en fait. Souvent, tout part d'un déséquilibre.
Toute la faune est désignée par le terme armimal ou ça correspond à une catégorie particulière d'animaux.
En fait, c'est tous les animaux dressés.
Ça regroupe aussi les montures.
Voilà.
Ça, on en parle un peu plus dans les carnets de voyage tome 1. Il y a tout un chapitre sur les animaux.
Et le dressage des animaux et tout ça.
Ouais.
Un animal sauvage et pas une armimal, non.
Ouais, ça devient une armimal à partir du moment où tu as établi un lien en fait, avec lui, justement, et que tu peux...
Interagir avec lui, le dresser,
utiliser ses capacités.
Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer une armimal végétale. C'est que l'instant où tu as un truc végétal qui peut se dresser et puis qui peut avoir une capacité, et bah, ça s'appelle un armimal, même si c'est végétal.
Ouais, genre une liane qui s'enroule autour de toi.
Exactement.
Tu peux utiliser comme arme ou comme grappin.
C'est ça. Une espèce de plante un peu carnivore qui peut attaquer. Ou... Alors le golem, ça c'est vraiment un truc particulier parce que c'est plus une invocation élémentaire. Donc là, on est plus proche du rituel et puis du côté élémentaliste. Dans le côté animal, il y a plus le côté naturel quand même à la base. C'est un truc que tu trouves dans la nature et puis que tu dresses. Là où le golem, c'est plutôt une invocation élémentaire qui prend corps dans un truc, c'est un peu plus mystique, on va dire. Là, je crois que mon prochain, ça sera ça, moi.
Ouais.
Parce qu'on sait, justement, on a pas mal de choses éclectiques quand tu es élémentaliste. Ouais. Tu peux quand même faire plein de trucs. Plus, on a revalorisé un peu ce côté rituel qui permet de faire des bonus spécialisations, etc. Et au final, c'est vraiment cool, un élémentaliste.
Ah, ils sont très polyvalents, en fait.
Oui, c'est ça.
Ils ont de tout, ils ont de la protection, de l'attaque,
Exactement.
Du déplacement. Mm. Sinon, on avait une question sur les noms des feelings. Comme ça colle à leur caractère, à leur personnalité.
Ouais.
Est-ce qu'ils naissaient avec un nom? Est-ce qu'ils pouvaient changer? Moi, dans ma tête, ils peuvent changer de nom en cours de vie, en fait, s'ils changent.
Absolument. Ils ont, on peut même imaginer que. Un féline a un nom quand il est gamin, et puis adolescent, bah, il en a un autre, et puis dans le cours de la vie, il en a encore un autre, mais tout en gardant quand même le précédent dans la mémoire, tu vois. Mais oui. Ça serait...
Une espèce de profil de carrière.
C'est ça, ouais, c'est ça.
Ça change au fur et à mesure. Mm. Mais il en a un à la naissance aussi. Hein.
Oui, ah oui, qui correspond à comment il est né d'ailleurs.
Et après, c'est selon les étapes de la vie, quoi.
C'est ça.
Ça se trouve, il changera jamais, fidèle à lui-même de tout gamin.
C'est ça.
À adulte.
C'est un félin qui s'appelle Trois Poils, parce que quand il est né, il avait déjà trois poils, machin. On peut imaginer que tout le long de sa vie, même quand il est vieux, il n'a plus que trois poils et ça reste trois poils, ouais. C'est vraiment.
Il y a quelqu'un qui a dit à un moment si on pouvait ouvrir un topic Discord sur des questions de règles. Pourquoi pas ? Après, est-ce que ça fait pas un doublon ?
Doublon avec le forum ? Bah oui. Ça. Forum, il fait pour ça, hein, pour le coup.
Ouais, le Discord, ça doit rester un truc un peu live, je pense, pour discuter en direct, en fait, quoi.
D'autant que sur le forum, il y a plein de monde dans la communauté qui sont tous très bons en règles. Et ce qui, du coup, tu en as plein des fois qui sont amenés à... Mais c'est pas forcément ni Julien ni moi qui pouvons répondre. On a plein d'autres qui peuvent répondre aussi à des règles sur le forum.
Et puis ça laisse une trace plus facile à retrouver, je pense, pour ceux qui se reposent la question plus tard.
Carrément.
Que dans un fil de discussion où ça part.
Et voire même souvent, il y a des fois des points de règles qui sont soulevés ou des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Et souvent, ça m'amène souvent... Des fois, je fais des petits développements... sur les questions qu'ils ont posées auxquelles j'avais pas pensé, et du coup je me dis ah tiens c'est marrant, et du coup je peux faire des petits développements comme ça dans le truc, quoi.
Ouais, on croit que tu savais déjà la réponse, mais en fait tu l'inventes.
Jamais. J'invente en écrivant.
Alors d'ailleurs, à propos des feelings, j'en ai fait un de la case de l'ombre, donc 5 en chan et 5 en nécrose. Si je développe le chan ou la nécrose, le domaine opposé risque de diminuer. Est-ce que je risque de perdre mes pouvoirs? Non,
tu gardes tes pouvoirs, ouais.
Par contre, ce sera moins fort pour les activer, parce que souvent, c'est des jets. Alors, sauf genre coup de chance, tu vois, celui-là, tu t'en fous si tu perds des niveaux en chaîne. Si t'as toujours coup de chance, tu pourras toujours relancer tes dés. Je sais pas si t'as pris transfert vital, par exemple. C'est ton score de test de chaîne qui va te donner le nombre de points que tu peux transférer. Si tu tombes à 2-3 en chaîne, tu feras des transferts un peu moins efficaces. Une fois obtenu, les pouvoirs restent, voilà, c'est ça. Même si tu rediminues, parce que tu perds déjà des PX, alors si en plus tu perds tes pouvoirs...
Oui, c'est pas...
C'est un peu dur.
Je crois pas que c'est une classe 10-10.
De quoi ? Comment on fait pour progresser dans ces deux voies simultanément ? Enfin, il existe une classe de prestige 10-10, chaîne nécrose. Alors, si c'est possible, c'est un cas vraiment ultra particulier. Tu montes à 15 en chaîne, par exemple, et qu'après tu montes à 10 en nécrose. Pour les niveaux 6, 7, 8, 9, 10, donc 5 niveaux de nécrose, tu vas baisser à chaque fois de 1 en chaîne, donc tu te retrouves à 10 en chaîne. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est monté soit à 15 en nécrose ou à 15 en chaîne, et qui a monté l'autre domaine jusqu'à 10. Et tu arrives à un équilibre 10-10, qui est le max, en fait. Et ça veut dire que tu as un peu niqué ton perso, quand même, je pense.
Mais je suis pas sûr qu'il existe cette classe de prestige 10-10, hein, ça me...
On a fait toutes les combinaisons. C'est les métiers de prestige, hein, ça. Les métiers de prestige, c'est 8. Donc il doit y avoir le chaniste ombre. Le songeur, chaniste de l'ombre.
Ah, c'est ça.
8 en chane, 8 en nécrose.
Ouais, mais c'est plus casse-cou, il a monté celui-là du coup.
Ouais, le songeur vit entre deux mondes, chaniste la nuit, fraudeur le jour. Un schizophrène.
Ah oui, c'est ça.
Un peu chaud à jouer. Alors je me demandais pour les focaliseurs, normalement on peut en avoir... âme sur 3 max. Du coup, quand l'âme est à 30, je sais, ça coûte bonbon en PX, ça risque d'être long, bah ouais, il faut avoir 15 dans les 3 domaines. Ça donne 10 focaliseurs, mais c'est la même limite pour le nombre de trines invoquées. Du coup, on peut acheter 10 focaliseurs mineurs, où les focaliseurs majeurs et mythiques perdent de leur utilité. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que les focaliseurs mythiques, en fait, ils étaient plus durs, genre, si tu veux piquer un trine à quelqu'un, transférer un trine, s'il est dans un focaliseur mythique, t'as des gros malus pour
le choper,
quoi. Ça protège mieux les trines, quoi, en gros, les focaliseurs. Alors, ça doit être dans l'arbre qui cache la forêt, quoi. Je vais vérifier en live. Ouais, ça. C'est page 51 de l'arbre qui cache la forêt.
Ah, tu l'as pas inventé, en plus, c'est vraiment vrai, c'est vraiment marqué.
ça, t'as des malus pour conjurer ou transférer un trine qui se trouve dans un focaliseur.
Ah, c'est vrai. Ça, c'est cohérent, c'est bien.
Et oui, ça le cache aussi, tu vois, t'as des malus pour le détecter. Pour faire du voile dessus. Et si par exemple vous avez des idées de. Ça, on pourra le poster sur le forum aussi, mais des idées de sujets de Discord. C'est-à-dire de sujets de live qu'on pourrait faire ça. Mais merci à vous d'être venu.
Bah, merci à vous, ouais, c'était cool en tout cas. Ouais, puis on arrive à... c'était hyper rapide en fait, hein. On n'a rien vu passer, quoi. Allez, bah, salut.
Bah cool, ciao, bonne soirée à tous.
Ciao.
Et puis à une prochaine.
Ciao.